Plateforme. Les arts et lettres.
Maison des écrivains et de la littérature. Littérature, enjeu contemporain. Littérature de vérité, première partie. Introduction avec Dominique Viard et Philippe Forest.
Alors, en littérature en vérité, on reviendra sur cette formule tout à l'heure, mais je voudrais commencer par une autre formule qui disait, c'est dans Variété, en littérature, le vrai n'est pas concevable. Une fois que j'ai dit ça, on pourrait d'ailleurs se séparer, la question est réglée. D'autant que c'est ce que confirme la sagesse populaire quand on dit c'est du roman, tu nous fais un roman, mais ce confirme aussi l'étymologie. J'imagine que vous êtes déjà avisé, le mot fiction a comme étymologie feindre, façonner, forger de toutes pièces, et le mot poésie a comme étymologie créer, fabriquer, forger de toutes pièces. C'est étrange, hein, c'est les deux mêmes mots finalement, alors qu'on les sépare dans les genres littéraires. Ce qui pourtant n'empêche pas cette conviction que tout cela n'est que de l'imaginaire, de la gratuité, ce qui n'empêche pas de prêter à la littérature un certain pouvoir, puisqu'on s'en méfie au point parfois de l'interdire, et pas seulement dans d'exotiques dictatures. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques jours, Roberto Ferrucci attirait notre attention sur le fait qu'un certain nombre de livres étaient enlevés des bibliothèques d'Italie, de Vénétie plus particulièrement, et donc on voit bien que la littérature, toute fausse, imaginaire et gratuite qu'elle puisse être dite par ailleurs, semble exercer quelques menaces à l'égard de ceux qui n'ont pas envie que ces discours-là, que ces récits-là soient lus. C'est dire qu'il y a une actualité de ces questions, actualité qui est montrée aussi par des débats littéraires que nous avons connus sur la scène française ces dernières années. Je pense au conflit entre Camille Laurence et Marie Darrieussecq à propos de Tom est mort, aux disputes entre Yannick Enel, Claude Lanzmann, autour du livre de Yannick Enel, Yann Karski, qui a agité bien plus que ces deux contributeurs au débat, ou encore à quantité d'autres phénomènes. On pourrait parler de la réception discutée des hommes de Mauvigné ou du procès qui est fait par une famille de banquiers à Régis Geoffrey. Il semble bien que la littérature suscite encore un certain nombre de controverses et au-delà de leur spécificité, tous ces débats touche finalement, non pas seulement à la question de savoir si on peut tout écrire, qui est souvent mise en avant, mais au-delà à la question, justement, des arguments de vérité, de falsification qui sont évoqués dans ces disputes et ces confrontations. D'où notre décision, après des discussions avec Bertrand Leclerc, Philippe Forest, Sylvie Goudbaron, les membres du conseil d'administration, de consacrer les enjeux de cette année à cette vieille question, finalement, puisque c'est une question qui est ouverte presque depuis les origines de la littérature. Je vous rappelle, sans vouloir faire trop professeur ici, les réflexions de Platon sur le fait que les poètes ne diffusaient que des fables et pour cela devaient être rejetés de la République. Le philosophe attribuait au philosophe justement le seul pouvoir de dire la vérité. Cette question donc très ancienne n'a pas cessé d'être débattue. Je ne vais pas faire une bibliographie, mais pensez simplement que le simple titre « Poésie et vérité » hein, de Goethe est aussi le titre d'un texte d'Éluard, est aussi le titre d'un texte de Bonnefoy, et on voit qu'on ne cesse de revenir à cette même question, et on pourrait évoquer plein d'autres ouvrages comme je sais pas, « La vérité littéraire » de Marthe Robert et bien d'autres. Cela montre donc, je crois, la permanence de ce débat. Mais que montre-t-elle, elle, cette permanence ? D'abord que le débat n'est pas tranché, très certainement, et qu'il mérite d'être à nouveau creusé, engagé, discuté. Mais peut-être aussi que si ce débat se repose et se réitère d'époque en époque, de siècle en siècle, d'esthétique en esthétique, de pays en pays, c'est qu'il se déplace et s'infléchit selon les airs, AI, et les airs, accent grave, dans lesquels il est traité. Et qu'en est-il pour aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, peut-être on oppose moins la poésie à la philosophie. Il y a même un certain nombre de nos poètes majeurs qui les font se rencontrer avec beaucoup de talent. Presque, je sais pas, Michel Deguy, pour ne citer qu'un seul nom parmi tant d'autres possibles. Mais il me semble qu'on oppose la littérature, peut-être un peu plus d'ailleurs la fiction, aux sciences pures, qui, elles, auraient effectivement vocation à dire des vérités ou à les démontrer, et même aux autres disciplines de la pensée qui ont émergé à la fin du XIXe siècle, aux sciences humaines, hein, psychanalyse, sociologie, histoire. Et du coup, la question aujourd'hui serait celle-ci: qu'est-ce que la littérature dit de plus ou d'autre que ces approches qui sont, elles, à la fois plus théoriques, plus méthodiques, pour ne pas dire simplement, ce serait un truisme, plus scientifiques qu'elles? Ou pour le dire autrement, avec quelques exemples un peu précis, et on pourrait en prendre des dizaines, quelle différence y a-t-il entre un ouvrage d'histoire sur l'exposition universelle de 1931 et Cannibale de Didier Deninck, que nous recevrons dans ces enjeux? Quelle différence y a-t-il entre un ouvrage de sociologie sur les suicides de France Télécom et Retour aux mots sauvages de Thierry Bensingle, que nous écouterons aussi ces jours-ci? C'est justement pour essayer de voir quelle est la spécificité de cette vérité littéraire, si tant est qu'il y en ait une, que nous nous sommes dit cette année que nous allions un peu innover en invitant à nos rencontres, non pas seulement des écrivains et des gens qui font profession de parler de littérature, critiques littéraires de la presse ou chercheurs universitaires, mais aussi des spécialistes de ces autres espaces, ces autres disciplines de la pensée, que sont la sociologie, la psychanalyse, l'histoire, la philosophie, et nous aurons Gisèle Sapiro, psychanalyste Gomez-Mango, Arlette Farge, philosophe comme Audi, etc. Non pas pour opposer ces disciplines à l'art qu'est la littérature, mais pour essayer de les articuler les unes aux autres, de voir ce qu'elles apportent peut-être les unes aux autres, d'autant que chacun de nos invités est quelqu'un qui, à chaque fois, s'intéresse beaucoup à la littérature au sein même de sa discipline et parfois autour. Donc c'est plutôt dans l'ordre du dialogue que nous voulons essayer d'avancer sur ces questions, et peut-être justement d'essayer d'identifier la forme de vérité propre à la littérature. La fiction, entendez-le dans le sens le plus large du terme, ne serait pas simplement un exercice de l'imaginaire, mais quelque chose comme une fonction élucidante spécifique. Au point, me semble-t-il, et j'avais essayé de le montrer ici et là parfois, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, que l'on pourrait peut-être aller jusqu'à parler d'une épistémologie propre à la littérature, qui ne serait pas la même que celle de ces autres disciplines de sciences humaines que j'évoquais tout à l'heure. Il y a, je crois, une fonction critique de la fiction. Je propose même parfois d'utiliser le terme de fiction critique. Et cette conviction-là, ma foi, est en train de se répandre assez largement. On pourrait évoquer d'autres lieux où elle a été pensée. Je le ferai très, très brièvement en pensant par exemple au philosophe Bouvresse, Jacques Bouvresse, qui a publié récemment un livre qui s'intitule justement « Sur la littérature, la vérité et la vie ». Et vous voyez que ces deux termes sont ici présents, avec en plus celui de vie, ce qui n'est pas tout à fait anodin, puisqu'on voit émerger en Allemagne aussi, autour de Ottmar Hethe, des travaux sur l'idée qu'il y a un savoir propre à la littérature, et que ce savoir propre à la littérature s'oppose finalement à d'autres formes de savoir, de connaissance ou de compréhension possible, s'oppose en tant qu'il est différent, qu'il est d'une autre nature, qu'il fonctionne selon d'autres pratiques, non pas en tant qu'il serait contraire, contradictoire. Ottmar Hethe va jusqu'à opposer, différencier, si vous voulez, les sciences, y compris les sciences pures ou dures, comme on voudra, la biologie, les sciences médicales, qui sont des sciences de la vie, dit-il, alors que la littérature serait un savoir de la vie. La formule sous laquelle il rassemble ses travaux, c'est « Literaturwissenschaft als Lebenwissenschaft ». Leben, la vie, hein. C'est quelque chose qu'on peut connaître à travers l'exercice littéraire. Autre exemple, on pourrait insister sur le fait que nous sommes dans une période où se développe beaucoup cette fameuse notion de storytelling. Storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est la fictionnalisation et la narrativisation des discours, hein. qu'utilisent souvent les politiques, mais aussi les économistes et d'autres spécialistes, justement. Hein. Je disais tout à l'heure l'opposition n'est plus entre poésie et philosophie, mais peut-être entre littérature et spécialiste, au pluriel, expert. Hein. Des experts qui fictionnalisent et narrativisent leurs propos, ce qui est une autre façon de dire qu'ils nous racontent des histoires. Est-ce que la littérature, du coup, ne serait pas, à contrario, l'espace où on tenterait, au contraire, de nous dire des vérités ? Et c'est dans cette opposition-là, beaucoup plus franche que celle que j'évoquais tout à l'heure, que peut-être quelque chose se joue. Je voudrais simplement, pour vous en donner une idée, faire une petite citation, un petit peu longue, mais je pense que vous me pardonnerez en l'entendant. Il s'agit des Roms. « Je me suis pâmé, il y a 8 jours, devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. » Voilà la 3e fois que j'en vois, et toujours avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols, et j'ai entendu de jolis mots à la prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine que l'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, au poète. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Il est vrai que beaucoup de ces choses m'exaspèrent. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat comme une poupée à qui on retire son bâton. Alors, contrairement à ce que vous avez peut-être cru, ce n'est pas du Stéphane Hessel, c'est une lettre de Flaubert à George Sand, qui retrouve une certaine actualité par les temps qui courent. Troisième petite réflexion, notre époque est aussi devenue, de plus en plus, peut-être celle du tout-image. Alors il ne s'agit pas là d'opposer une vérité plus objective de l'objectif, photographique ou de caméra. On sait bien qu'il y a des questions de cadrage, de montage, qui peuvent aussi intervenir dans cette discipline-là. Et donc c'est un peu facile et sans doute illusoire d'opposer l'objectif de la photo au subjectif du point de vue de l'écrivain. Mais il y a là un autre régime de fiction, de récit qui s'élabore et qui est en train peut-être de prendre le pas, c'est ce qu'on dit ici et là, sur la littérature, sur les livres et la lecture. Et c'est pourquoi, là encore, nous avons voulu qu'un certain nombre de spécialistes de ces questions, historiens de l'art comme Watt ou philosophes de l'image comme Marie-Josée Mondzin, puissent être parmi nous pour essayer de comprendre quelles sont les similitudes, les proximités, les partenariats parfois entre ces arts et la littérature. Et nous aurons aussi des écrivains qui sont praticiens de l'image, si l'on veut, ou qui travaillent avec, comme Anne-Marie Gara, Bobert. En fait, finalement, pour me résumer, nous avons 2 grandes perspectives à ces rencontres. L'une qui serait justement d'interroger cette question de la vérité en littérature à travers la pratique et non pas simplement à travers des réflexions d'ordre philosophique, conceptuel ou de l'ordre du commentaire, comme je l'ai fait moi-même, puisque de fait c'est ma fonction. Donc non pas simplement un débat philosophique sur la vérité en littérature, mais quelque chose comme une auscultation de l'écriture en train de se faire lorsque justement elle s'affronte à ces questions par les choix qui sont les siens, les problèmes qu'elle traite et met en mots en fait dans ses textes. Et quand je dis la littérature et ses textes, je veux dire que chaque écrivain, dans sa pratique singulière, met en œuvre et peut-être dont il fait, ils nous le diront, à certains égards, l'enjeu de son œuvre. Et puis une 2e perspective, quelle est cette vérité plus particulière, plus singulière de la littérature ou qui se dit dans la littérature ? Est-ce qu'il s'agit d'une vérité de la même nature que celle qui pourrait se dire ailleurs, mais à laquelle la littérature donnerait une efficacité plus grande parce que, ajoutant une sorte de principe de plaisir à ceux qui la lisent, elle permet de diffuser plus largement telle ou telle question, tel ou tel savoir, telle ou telle connaissance ? Ou encore, est-ce qu'il y a une nature spécifique de cette vérité en littérature qui ne serait plus une vérité scientifique au sens des expériences reproductibles des chercheurs en laboratoire, qui ne serait pas non plus une vérité logique qui pourrait simplement être développée par le jeu de la démonstration, qui ne serait pas, et peut-être là on touche des choses qui deviennent encore plus aiguës et qui rejoignent les débats que j'évoquais tout à l'heure, une vérité purement factuelle? Est-ce que la littérature doit se saisir de fait? On a eu aussi des polémiques entre des écrivains qui pensaient que la littérature aujourd'hui devait dire quelque chose du réel tel qu'il est, tel qu'il nous apparaît, et d'autres qui pensaient que la fiction avait un droit de cité inaltérable. Ce n'est pas non plus une vérité au sens d'une conformité à des réalités et des événements, mais une vérité qui serait différente et qu'on pourrait dire peut-être plus empathique, plus phénoménologique, plus subjective, plus intime. Et nous allons aborder cette question de l'intime en littérature et de la vérité de l'intime. Vous savez peut-être de cette formule de Lacan qui dit que tout sujet s'appréhende dans une ligne de fiction, donc aucun sujet n'a de vérité sur lui-même. Il n'a qu'une fiction qu'il se fait de lui-même, mais cette fiction, n'est-ce pas justement sa vérité? Et en retournant la question, on voit qu'elle se dispose de façon tout à fait différente. Une vérité qui vient peut-être de ce qu'elle est éprouvée, vécue, expérimentale, singulière, et surtout, une vérité verbale. Si je voulais essayer de subsumer tous ces mots, empathie, phénoménologie, subjectivité, intime, émotion, expérience, vécu, singularité, et surtout langagière, verbale, je dirais finalement que c'est une vérité humaine. Et pour terminer, je voudrais, avant de laisser la parole à Philippe, la donner une dernière fois à un autre écrivain, puisqu'on dit que la vérité n'est jamais que ce que l'on peut effectivement prouver, que ce soit par l'expérience, la logique, la démonstration, etc., et que la littérature avance sans preuve, eh bien, voici la réponse qu'à ces questions-là donnait Proust. Je cite, « La reconnaissance en soi-même par le lecteur de ce que dit le livre est la preuve de la vérité de celui-ci. » Voilà, j'en ai terminé. Je laisse maintenant à Philippe Forest, qui est l'auteur du titre de nos rencontres, le soin de dire ce qu'il entend par littérature en vérité, ce qui n'est plus exactement la même chose que la vérité en littérature.
Merci Dominique. Oui, je suis l'auteur de ce titre, donc j'en suis responsable, et c'est pourquoi je voulais vous présenter un petit commentaire sur celui-ci, d'autant plus que ce titre a une tonalité un peu évangélique, la littérature en vérité, et la formule que Sylvie Goudbaron a proposée de faire figurer en épigraphe du programme, qui est empruntée à Queneau, vient sans doute fournir une sorte de contrepoint ironique un peu salutaire à ce que le titre que j'avais proposé peut avoir peut-être d'un peu trop sérieux. Je rappelle la formule de Queneau, ou en tout cas un extrait de celle-ci, la vérité, comme si quelqu'un au monde savait ce que c'est. La littérature en vérité, le titre se comprend au moins de deux manières différentes selon que l'on fait entendre ou non en son milieu la pose d'une éventuelle virgule, la littérature virgule en vérité, ou bien la littérature en vérité. Il s'agit en effet à la fois pour nous, je crois, de nous demander ce qu'est la littérature, donc virgule en vérité, c'est-à-dire autrement dit ce que c'est que la vérité ou l'essence de la littérature. Mais il s'agit également de s'interroger sur ce que devient la littérature, dans la ligne des remarques qui ont été proposées par Dominique et auxquelles j'adhère tout à fait. Donc s'interroger sur ce que devient la littérature lorsqu'elle prétend éventuellement parler en vérité, c'est-à-dire lorsqu'elle s'installe en un lieu qui serait celui de la parole vraie, la littérature en vérité. Autrement dit, quel est le rapport de la littérature à la vérité? Et c'est bien le sujet de ces conversations qui s'annoncent aujourd'hui. Bien sûr, les deux acceptions possibles de ce titre peuvent être rassemblées en quelque sorte ou articulées l'une à l'autre sous une forme assez concise et très définitive. On pourrait dire tout simplement la littérature en vérité, c'est-à-dire la vérité de la littérature, consiste ou consisterait en l'expression de la vérité en littérature, ce qui est une formule presque tautologique autour de laquelle on va sûrement être amené à tourner et réfléchir. La vérité en littérature au sens, puisque nous sommes ici au Petit Palais, et puisqu'il sera question de peinture, d'image, dès cet après-midi et à nouveau dimanche, la vérité en littérature au sens où Cézanne, en une formule célèbre, qui a inspiré d'ailleurs un livre à Derrida, déclarait dans une lettre de 1905 « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai ». Donc on pourrait effectivement s'en tenir là, mais cette pensée-là, c'est-à-dire la littérature en vérité comme l'expression de la vérité en littérature, cette pensée-là, dans sa formulation simple, elle s'adosse aussi à toute une bibliothèque, épopée, tragédie, roman, puis poésie, et puis aussi philosophie, bien sûr, elle s'adosse à toute la bibliothèque, si bien qu'on pourrait aussi bien en discuter pendant des siècles sans jamais courir le risque, ni d'en avoir fini avec cette question, ni sans doute, et je pense que les débats vont nous en apporter la preuve, ni sans doute non plus, sans courir le risque de tomber jamais d'accord les uns avec les autres. Donc je voudrais vous proposer quelques réflexions sur ce titre, rapidement, en revenant un peu sur des choses que Dominique Viard a déjà mises en place, en le faisant, j'espère, de manière un peu différente. Effectivement, a priori, la littérature, elle se place sous le signe de la fable, de la fiction, et donc elle se soustrait à l'impératif de dire le vrai. Et le vrai, elle le confie. On peut dire aussi bien qu'elle le délègue ou qu'elle l'abandonne à d'autres formes de discours, par exemple l'histoire ou par exemple la philosophie ou pour parler un langage un peu plus contemporain, disons les sciences humaines, dont il sera effectivement question au cours d'un certain nombre des débats qui vont suivre. Si bien que la littérature, elle se revendique a priori et d'abord comme représentation, voire effectivement Platon, Aristote, c'est-à-dire comme artifice, comme mensonge. Et elle le fait même lorsqu'elle se contraint, par exemple, c'est un débat de l'âge classique, à la vraisemblance, mais pour mieux se soustraire à l'obligation du véridique. On a toute une série de termes, le vrai, le fictif, le vraisemblable, le véridique, avec lesquels la pensée critique a joué et depuis fort longtemps. Mais, et c'est je pense que sur ce terrain-là que nous allons avoir à réfléchir surtout, la littérature ne se contente pas de s'émanciper du vrai. Elle vient en défier, ou en tout cas en contester, et du même coup en renouveler l'idée du vrai. D'abord en suggérant que la vérité elle-même, peut-être, n'est rien d'autre qu'une fiction. Il en sera question dans quelques minutes, je crois, à travers une formule qui renvoie à Jacques Lacan, que Dominique a également évoqué, la vérité à structure de fiction. Ce qui signifie, si on veut se placer sur un terrain un peu moins complexe, que peut-être la réalité n'aurait d'autre existence que sous la forme que lui donnent les fables. Et aussi bien que Lacan, on pourrait citer un grand nombre de textes, mais notamment je pense au texte d'Oscar Wilde intitulé « La décadence du mensonge » où Wilde nous dit que ça n'est pas l'art qui imite la vie, mais c'est la vie qui imite l'art, et pour cette raison Turner est l'inventeur du coucher de soleil. Le 19e siècle n'est rien d'autre qu'une fiction qui serait sortie de l'esprit de Balzac écrivant la comédie humaine, où le Japon n'existerait qu'à la manière d'un rêve sorti des estampes de Kusai. Donc il y a une sorte de renversement ici qui s'opère déjà. Et puis surtout, la littérature affirme qu'elle est elle-même détentrice du vrai. Un vrai sur le vrai, un vrai plus vrai que le vrai, en quelque sorte. On pourrait presque dire un survrai, au sens du surréel d'André Breton. Un survrai que seule la parole littéraire pourrait exprimer, soit par la fiction romanesque, soit par l'épiphanie ou l'illumination poétique. Et là encore, il faudra citer à nouveau toute la bibliothèque depuis le romantisme. Je citerai juste, pour faire écho là encore à ce que Dominique a dit, je citerai juste Proust, et une formule de Proust qui est très célèbre et que chacun connaît, je crois, mais qui me semble pertinente par rapport à notre propos. Proust parlant donc de la vraie vie, mais précisant tout de suite, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent, pleinement vécue, c'est la littérature. Alors dans l'idéal, mais je vais faire vite, dans l'idéal, il semblerait difficile de ne pas faire un petit détour du côté de la philosophie, du côté de Nietzsche, nous disant que nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, du côté de Heidegger, notamment je pense au texte sur l'essence de la vérité ou sur l'origine de l'œuvre d'art, mais c'est un terrain sur lequel je laisserai s'aventurer des gens qui sont plus compétents que moi. Je voudrais juste prendre une référence qui est moins connue, mais qui pour moi moi, en tout cas, a été très éclairante, et ce n'est pas la première fois que je me rapporte à ce texte. C'est un petit texte de Julia Kristeva qui est apparu en 1979 en tête d'un ouvrage collectif paru dans la collection Telle Quelle qui s'intitulait « Folle vérité », et où Kristeva, donc, en prenant appui sur tout le travail antérieur qui était le sien et d'une manière plus générale sur la pensée critique des années 60 et 70, où Kristeva donc invitait à penser ce qu'elle appelait un autre statut de la vérité qui dépend du surgissement d'un réel approché dans la folie, dans la mystique, dans la poésie, c'est-à-dire à travers toutes les formes de ce que Bataille un peu plus tôt appelait l'expérience intérieure, tout cela se manifestant dans la confrontation avec l'innommable, avec l'impossible. Et c'est là que s'opère ce basculement ou ce changement éventuel du statut de la vérité. Il ne s'agit plus de parler du vrai, c'est-à-dire du véridique, en tant qu'il correspondrait à la conformité d'un énoncé à la réalité, ce qui est la définition classique de la vérité pour les philosophes, mais d'autres choses, non plus le vrai, mais donc, et c'est surtout ce point que je voulais indiquer, ce que Kristeva baptise d'un néologisme qui m'a toujours semblait particulièrement pertinent et frappant, c'est-à-dire non plus le vrai, donc, mais le vrai elle, donc un mot qui naît de la conjonction et de la compression, on pourrait dire, de ces deux adjectifs vrai et réel, le vrai elle étant donc l'épreuve impossible du réel, donc non plus la conformité entre l'énoncé et la réalité, mais la confrontation donc à quelque chose qui nous renvoie donc à ce que Bataille appelait l'expérience intérieure et qui est peut-être finalement l'objet de la littérature. Alors comment, demandait Kristeva, comment rendre cette hantise du réel signifiable? C'est la question qui se pose à nous. Vieille question, mais question toujours nouvelle. Comme le prouve, je crois, le fait que cette question de la vérité, c'est pourquoi on a choisi de s'y consacrer cette année, le fait donc que cette question de la vérité fasse retour dans toute une série de débats récents qui ont été évoqués, et en raison même de la situation, je crois, qui se trouve désormais faite à la littérature dans le monde d'aujourd'hui. Pour essayer de résumer tout cela en conclusion, je dirais qu'il me semble que d'un côté, le geste littéraire est réduit souvent à l'expression du véridique, et d'un véridique qui est souvent sociologique, journalistique, télévisuel, voire parfois policier, puisque ce débat se développe aussi sur le terrain juridique. Et on juge donc de la vérité du texte littéraire selon sa conformité avec une représentation qui est elle-même une représentation qui peut être fictive ou mensongère ou idéologique. Et c'est ce qu'on peut voir du côté de ce que j'appellerais un certain néo-naturalisme romanesque d'aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, symétriquement, inversement, le geste littéraire est parfois posé aussi comme relevant de la pure invention de la fiction souveraine, et sa vérité alors n'est plus censée reposer aucunement sur un rapport effectif au monde ou sur une expérience qui serait celle de l'auteur, comme si cette vérité-là, fictive, elle se suffisait en quelque sorte à elle-même, sans avoir à rendre des comptes du rapport qui est le sien au monde. D'où ce qu'on pourrait appeler, j'invente un peu ce néologisme, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais disons le fictionnalisme d'aujourd'hui, je vise par là une certaine conception de la littérature qui congédie tout à fait l'expérience et qui, à mon sens, voue du même coup le texte poétique ou romanesque à l'inoffensif et à l'insignifiant. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire réduction du vrai littéraire, du réel, donc au véridique, ou au contraire, le fait de rapporter celui-ci à une pure fiction, dans un cas comme dans l'autre, il me semble que c'est la spécificité du vrai littéraire qui est manqué ou qui est dénié. Le vrai littéraire n'est ni le véridique, ni le fictif, sans doute. Il suppose l'un et l'autre à la fois, mais au-delà, il consiste aussi en une confrontation avec le réel et avec la part d'impossible qui ne se manifeste donc que dans l'expérience souveraine. Bon, j'avais préparé un certain nombre d'autres choses à dire, mais je vais abandonner. Je voulais terminer aussi sur une citation. J'avais pensé citer Bataille, j'avais pensé citer Kierkegaard, qui est à mon sens le grand témoignant, le grand philosophe ou le grand penseur de cette question du témoignage. J'avais pensé citer Primo Levi aussi, mais l'actualité m'invite plutôt à citer un autre écrivain, quelques phrases que je prends dans son œuvre. La première est assez abrupte, donc j'espère qu'elle ne va pas trop plomber les débats, mais elle est très célèbre. C'est une phrase qui est apparue dans un roman de 1932. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Et puis, contemporain de cette phrase, contemporain presque de ce roman, deux autres phrases qui sont empruntées à un hommage rendu donc par cet écrivain à Zola, à Médan. Ça me semble là aussi assez juste. Aujourd'hui, le naturalisme de Zola, avec les moyens que nous possédons pour nous renseigner, devient presque impossible. On ne sortirait pas de prison si on racontait la vie telle qu'on la sait, à commencer par la sienne. Et toujours dans ce même texte, nous voici parvenus au bout de 20 siècles de haute civilisation, et cependant, aucun régime ne résisterait à 2 mois de vérité. Et puis pour conclure, vraiment, ce même écrivain, donc revenant en 1947 dans une lettre à Milton Indus, sur ses déclarations dans ce texte célèbre d'hommage à Zola, expliquant que la vérité est à la fois indispensable à l'écrivain, elle est insoutenable, mais en même temps elle est insuffisante, comme si c'était à partir d'elle et au-delà d'elle que la littérature commençait vraiment. Donc, dernière citation, « Depuis Médan, je n'ai guère changé, je pense, d'avis littéraire. Toutefois, j'ai plus d'audace, je crois. La vérité ne me suffit plus. Il me faut une transposition de tout. Ce qui ne chante pas n'existe pas pour l'âme. » Tout cela étant bien sûr de Louis-Ferdinand Céline.